Là où d'autres proposent des œuvres, je ne prétends pas autre chose que de montrer mon esprit. La vie est de brûler des questions. Je ne conçois pas d'œuvre détachée de la vie. Je n'aime pas la création détachée. Je ne conçois pas non plus l'esprit comme détaché de lui-même. Chacune de mes œuvres, chacun des pans de moi-même, chacune des floraisons glaciaires de mon âme intérieure bave sur moi. Je me retrouve autant dans une lettre écrite pour expliquer le rétrécissement intime de mon être, le châtrage insensé de ma vie, que dans un essai extérieur à moi-même qui m'apparaîtrait comme une grossesse indifférente de mon esprit. Je souffre que l'esprit ne soit pas dans la vie et que la vie ne soit pas dans l'esprit. Je souffre de l'esprit organe, de l'esprit traduction, de l'esprit intimidation des choses pour les faire entrer dans l'esprit. Ce livre, je le mets en suspension dans la vie. Je veux qu'il soit mordu par les choses extérieures et d'abord par tous les soubresauts en cisaille, toutes les scillations de mon moi à venir. Description d'un état physique. Une sensation de brûlure acide dans les membres. Des muscles tordus comme ma vif, le sentiment d'être en verre et brisable, une peur, une rétraction devant le mouvement et le bruit, un désarroi inconscient de la marche, des gestes, des mouvements, une volonté perpétuellement tendue pour les gestes les plus simples, le renoncement aux gestes le plus simple, une fatigue renversante et centrale, une espèce de fatigue aspirante, les mouvements à recomposer, une espèce de fatigue de mort, de la fatigue d'esprit pour une application de la tension musculaire la plus simple, le geste de prendre, de s'accrocher inconsciemment à quelque chose, à soutenir par une volonté appliquée, une fatigue de commencement du monde, la sensation de son corps à porter, un sentiment de fragilité incroyable qui devient une brisante douleur, un état d'engourdissement douloureux, une espèce d'engourdissement localisé à la peau qui n'interdit aucun mouvement mais change le sentiment interne d'un membre et donne à la simple station verticale le prix d'un effort victorieux. Localisé probablement à la peau, mais senti comme la suppression radicale d'un membre, ne présentant plus au cerveau que des images des membres filiformes, cotonneux, des images de membres lointains, pas à leur place, une espèce de rupture intérieure de la correspondance de tous les nerfs, un vertige mouvant, une espèce d'éblouissement oblique qui accompagne tout effort, une coagulation de chaleur qui enserre toute l'étendue du crâne, ou s'y découpe par morceaux des plaques de chaleur qui se déplacent. Une exacerbation douloureuse du crâne, une coupante pression des nerfs, la nuque acharnée à souffrir, les tempes qui se vitrifient, se marbrent, une tête piétinée de chevaux. Il faudrait parler maintenant de la décorporisation de la réalité, de cette espèce de rupture appliquée, on dirait, à se multiplier elle-même entre les choses et le sentiment qu'elles produisent sur notre esprit, la place qu'elles doivent prendre. Ce classement instantané des choses dans les cellules de l'esprit, non pas tellement dans leur ordre logique, mais leur ordre sentimental, affectif, qu'on ne fait plus. Les choses n'ont plus d'odeur, plus de sexe. Mais leur ordre logique aussi, quelquefois, est rompu à cause justement de leur manque de relent affectif. Les mots pourrissent à l'appel inconscient du cerveau. Tous les mots pour n'importe quelle opération mentale, et surtout celles qui touchent aux ressorts les plus habituels, les plus actifs de l'esprit. En sommeil, nerfs tendus tout le long des jambes. Le sommeil venait d'un déplacement de croyance. L'étreinte se relâchait. L'absurde me marchait sur les pieds. Je n'ai visé qu'à l'horlogerie de l'âme. Je n'ai transcrit que la douleur d'un ajustement avorté. Je suis un abîme complet. Ceux qui me croyaient capable d'une douleur entière, d'une belle douleur, d'angoisses remplies et charnues, d'angoisses qui sont un mélange d'objets, une trituration effervescente de force et non un point suspendu, avec pourtant des impulsions mouvementées, déracinantes qui viennent de la confrontation de mes forces avec ces abîmes d'absolu offerts,
de la confrontation de force au volume puissant, et il n'y a plus que les abîmes volumineux, l'arrêt, le froid, ceux donc qui m'ont attribué le plus de vie, qui m'ont pensé à un degré moindre de la chute du soi, qui m'ont cru plongé dans un bruit torturé, dans une noirceur violente avec laquelle je me battais, sont perdus dans les ténèbres de l'homme. Se retrouver dans un état d'extrême secousse, éclairci d'irréalité, avec dans un coin de soi-même des morceaux du monde réel. Il faut que l'on comprenne que toute l'intelligence n'est qu'une vaste éventualité, qu'on peut la perdre, non pas comme l'aliéné qui est mort, mais comme un vivant qui est dans la vie et qui sent sur lui l'attraction et le souffle de l'intelligence, pas de la vie, les titillations de l'intelligence, ce brusque renversement des parties, les mots à mi-chemin de l'intelligence, cette possibilité de penser en arrière, d'invectiver tout à coup sa pensée, ce dialogue dans la pensée, l'absorption, la rupture de tout, et tout à coup ce filet d'eau sur un volcan, la chute mince et ralentie de l'esprit. Une espèce de déperdition constante du niveau normal de la réalité. Pensée sans rupture minime, sans chausse-trappe dans la pensée, mais l'un de ces escamotages subis dont mes moelles sont contumières, comme post-émetteurs de courant. Mes moelles parfois s'amusent à ces jeux, se plaisent à ces jeux, se plaisent à ces raptes furtifs auxquels la tête de ma pensée préside. Il ne me faudrait qu'un seul mot parfois, un seul petit mot sans importance pour être grand, pour parler sur le ton des prophètes, un mot témoin, un mot précis, un mot subtil, un mot bien macéré dans mes moelles, tout dessous sorti de moi, ou mes moelles qui sorti de moi qui se tiendrait à l'extrême bout de mon être et qui pour tout le monde ne serait rien. Je suis témoin, je suis le seul témoin de moi-même. Cette écorce de mots, ces imperceptibles transformations de ma pensée à voix basse, de cette petite partie de ma pensée que je prétends qui était déjà formulé et qui avorte, je suis seul juge d'en mesurer la portée. Sous cette croûte d'os et de peau qui est ma tête, il y a une constance d'angoisse, non comme un point moral, comme les ratiocinations d'une nature imbécilement pointilleuse ou habitée d'un levain d'inquiétude dans le sens de la hauteur, mais comme une décantation à l'intérieur, comme la dépossession de ma substance vitale. Comme la perte physique est essentielle, je veux dire perte du côté de l'essence, d'un sens. Savez-vous ce que c'est que la sensibilité suspendue, cette espèce de vitalité terrifique scindée en deux, ce point de cohésion nécessaire auquel l'être ne se hausse plus, ce lieu menaçant, ce lieu terrassant? La rue sexuelle s'anime le long des faces malvenues, les cafés pépillant de crime déracinent les avenues, des mains de sexe brûlent les poches et les ventres bout par-dessous, toutes les pensées s'entrechoquent et les têtes moins que les trous, vitres de sang où virent les astres, verts où cuisent les cerveaux, le ciel fourmillant d'un pudeur dévore la nudité des astres. Un lait bizarre et véhément fourmille au fond du firmament. Un escargot monte et dérange la placidité des nuages. Délices et rages, le ciel entier lance sur nous comme un nuage, un tourbillon d'ailes sauvages, torrentielles d'obscénité. Dans le cercle.